RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal avec vous Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Que dit-on ? N'Djamena, reportage dans un instant à l'école normale supérieure dans la capitale tchadienne, où les avis et les opinions ne manquent pas après que le gouvernement a dit vouloir rompre les accords de défense avec la France. De son côté, Paris a simplement dit prendre acte de la volonté tchadienne. Dans ce journal également, le bilan de 3 années de Shujaa, opération commune des armées de République démocratique du Congo et de l'Ouganda, contre le groupe armé ADF dans l'est de la RDC. Des reportages également en Afrique du Sud, où le président a reçu hier les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et au Maroc, où se tient en ce moment Zaman, festival de musique au milieu du désert dans le sud marocain. La réaction de Paris tient donc en quelques phrases et assure que la France prend acte et entend poursuivre le dialogue avec les autorités tchadiennes. N'Djamena qui, 24 heures plus tôt et juste après la visite du ministre français des Affaires étrangères, annonçait sa volonté de mettre fin aux accords de défense qui lient les deux pays. L'heure est donc ce matin encore aux réactions. Sur notre antenne, par exemple, vous avez pu entendre tout à l'heure l'opposant Succès Masra estimer que, selon lui, il n'y avait pas de mauvais partenaires, il n'y avait que des mauvais partenariats et que son pays, le Tchad, devait être libre de traiter avec qui il l'entend. Un état d'esprit qui semble partagé par beaucoup à l'école normale supérieure, N'Djamena, où s'est rendue notre correspondante Nadia Ben Mahfoud.
Une rupture synonyme de libération. C'est l'état d'esprit qui règne majoritairement dans la capitale et que Mahamat, étudiant en histoire militaire, partage.
Chaque pays est libre de faire son choix de coopération. Et alors le Tchad a décidé de rompre cette relation, c'est que la relation n'est pas gagnant-gagnant.
Un déséquilibre qui mène à la rupture, mais ce n'est pas une première entre les deux pays, rappelle Sali Bakari, enseignant au département d'histoire de l'ENS.
Si on fait un regard rétrospectif dans l'histoire politique du Tchad, vous allez vous rendre compte que sous le Conseil supérieur militaire, le Tchad avait demandé aux troupes françaises de quitter.
Ça, c'était en 1976, c'est ça ?
Dans les années 76, oui. C'est quand même une décision qui va dans le sens du discours panafricaniste qui a cours au sein de la jeunesse africaine.
De nombreux jeunes tchadiens appellent à un rapprochement avec la Russie. Olivier est étudiant en sciences politiques. Il y est favorable à condition qu'il apporte plus de sécurité dans son pays.
Aujourd'hui, moi, je dis non à la France. Et je ne sais pas si peut-être avec la Russie, il y aura de sécurité. Et dans le cas où la Russie continue comme la France, c'est fort possible qu'on dise non aussi à la Russie.
Malgré cette décision, le ministère des Affaires étrangères tchadien réaffirme que les liens d'amitié entre les deux pays ne sont pas remis en question. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Et cette annonce de N'Djamena, elle a surpris au-delà de la diplomatie française. Par exemple, le Gabonais Marc Ona, figure de la société civile du continent africain, ancien président de l'association Tournons la Page.
La coopération militaire entre la France et certains pays africains diffère en fonction des intérêts. Le Tchad, pour moi, fait partie de ces pays qui ont bénéficié largement de cette coopération militaire avec des situations comme celle vécue il y a quelques années par le pouvoir tchadien, alors que les rebelles se trouvaient presque aux portes du palais présidentiel. C'est l'armée française qui est venue pour faire reculer les rebelles. Aujourd'hui, cette décision du Tchad m'interpelle et me surprend. Peut-être que les nouvelles autorités tchadiennes estiment avoir renforcé les capacités opérationnelles de leur armée pour se sentir autonome, soit les autorités ont ouvert la porte à d'autres puissances militaires.
Vous pensez à la Russie, aux Émirats Arabes Unis ?
Exactement. Le Tchad ne peut pas ne pas avoir des partenaires militaires. Vous savez, les technologies militaires ont évolué. Est-ce que nous, en Afrique, nous avons la capacité de développer cette technologie? On est obligé de passer par des coopérations militaires avec certains pays très avancés. Je suis observateur. J'aimerais surtout voir la suite.
Marc Ona, ancien président de l'association Tournons la Page, joint par David Bachet. Et la suite, ce sera peut-être des précisions de la part du gouvernement tchadien, gouvernement de N'Djamena, qui ne s'est plus exprimé depuis son annonce de jeudi soir. Parmi les futurs partenaires potentiels de N'Djamena, il y a donc Moscou, la Russie, qui est déjà très bien implantée chez les voisins du Tchad, comme par exemple la Centrafrique, où la cohabitation avec les hommes de Wagner, toutefois, ne se fait pas sans heurts. Illustration hier à Bambari, dans le centre du pays, où un convoi des paramilitaires russes a foncé sur des habitants en plein préparatif de la fête nationale. François Mazet.
L'incident a eu lieu aux environs de 10 heures sur l'avenue principale de Bambari. Plusieurs centaines de personnes étaient massées pour les répétitions du défilé du 1er décembre, jour de proclamation de la République en 1958. Pour éviter tout débordement, le périmètre était bouclé et la circulation déviée. Alors que l'exercice se poursuit, un convoi de paramilitaires russes du groupe Wagner n'a pas obtempéré. Nos forces ont essayé de faire dévier leur convoi, mais ils ont refusé, continuant tout droit sur les participants, explique Abel Matipata, le maire de Bambari, joint par téléphone. Cette situation a provoqué la colère de la foule qui, dans un premier temps, a bloqué le passage avant de jeter des pierres sur le convoi. Pour éviter que cela dégénère, les forces de sécurité centrafricaines ont essayé de repousser la foule avec des tirs de dissuasion, précise Abel Matipata. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais l'hôpital préfectoral de Bambari a pris en charge 77 personnes, la plupart des femmes et des enfants, qui ont perdu connaissance suite aux détonations des armes. Les activités ont repris normalement dans l'après-midi à Bambari. Ni le gouvernement centrafricain, ni le groupe Wagner n'ont réagi à cette situation.
François Mazet à Bambari, en Centrafrique, où il est 8h36, 10h36. À Kampala, quel bilan dans l'est de la République démocratique du Congo pour les opérations Shujaa depuis 3 ans exactement aujourd'hui. Opération commune des armées de RDC et de l'Ouganda qui vise spécifiquement les ADF, ce groupe armé d'origine ougandaise qui s'est installé du côté congolais de la frontière il y a maintenant plusieurs décennies, qui a fait depuis allégeance au groupe État islamique, c'était en 2016. Des ADF traqués donc depuis 3 ans. Par les armées des deux pays. Ils ont subi des pertes, mais ils restent aujourd'hui le plus meurtrier des groupes armés actifs en RDC, nous explique Florence Maurice.
Les ADF ont été contraints d'abandonner certains de leurs bastions, notamment autour de Beni, dans ce que l'on appelle le triangle de la mort. Les attaques y sont moins fréquentes, les gens se déplacent plus librement, confirme la société civile. Le mode opératoire des ADF a également évolué. Ils agissent davantage en petits groupes et au cours de leurs déplacements, ils se savent traquer et ont du mal à maintenir des campements, constate Regan Mirivi, chercheur à Ebouteli. Cette situation a aussi entraîné le départ de nombreux dépendants. Le groupe est déstabilisé, poursuit-il. Mais la médaille a un revers. Sous la pression, les ADF se sont repliés vers l'ouest, vers l'intérieur des terres. En mai, ils ont frappé le secteur de Bapéré dans le Loubero en disant « jamais leur présence n'y avait été signalée ». L'épicentre des attaques s'est donc déplacé. Au fil des mois, Shujaa a elle aussi étendu ses opérations vers l'ouest, des zones encore plus denses en rivière et en forêt. Le ravitaillement logistique devient un cauchemar et coûte cher, reconnaît le porte-parole de l'armée ougandaise. Dans ces zones, il est aussi plus facile pour les ADF de se dissimuler.
Florence Maurice, l'Ouganda, où par ailleurs les recherches se poursuivent dans l'est du pays après des glissements de terrain mortels. Les secours disent avoir trouvé 5 nouveaux corps, ce qui porte à 20 le nombre de victimes, alors qu'une centaine de personnes sont par ailleurs toujours portées disparues. La première ministre ougandaise s'est rendue sur place. Dans 4 minutes sur RFI, le journal des sports, avec Victor Missistrano, on parlera notamment handball et de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en ce moment, alors qu'en Afrique du Sud, bientôt 3 mois après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, hier, le président sud-africain a reçu en grande pompe les médaillés et 2 d'entre eux ont même eu droit au bouclier de Jupiter, la plus haute distinction sportive du pays, Valentin Hugues.
Dans la cour du palais présidentiel, ornée de fleurs et de drapeaux sud-africains, règne une ambiance de JO. Sur les écrans, on revisionne les exploits des athlètes médaillés. Des athlètes présents aujourd'hui, vêtus de leur survêtement national vert et érigés au rang de héros par le président Cyril Ramaphosa.
Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement nos médailles, mais aussi notre pouvoir de résilience. Nous sommes un pays qui a été forcé de lutter, mais aussi une nation d'espoir. Un espoir que nous avons tous au plus profond de nos cœurs.
6 médailles olympiques et 6 médailles paralympiques pour l'Afrique du Sud. Tatiana Smith a obtenu l'or en brasse, c'est l'athlète sud-africaine la plus titrée.
Même 3 mois plus tard, on continue à célébrer les Jeux Olympiques. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être de retour dans l'équipe à la maison. C'est tellement précieux pour moi parce que j'ai pris ma retraite depuis.
Comme Tatiana Smith, Pumelo Mlongo, médaillée d'or en para-athlétisme, a aussi reçu ce grand bouclier de Jupiter gris qu'il tient fièrement sous son bras gauche.
Je n'ai pas envie de le quitter. Je crois que je vais dormir avec. Recevoir la plus grande distinction sportive de la main du président, moi qui viens des townships, jamais je n'aurais pu l'imaginer.
Pour continuer à rassembler le pays grâce au sport, l'Afrique du Sud rêve de former une délégation de 350 sportifs pour Los Angeles, presque deux fois plus qu'à Paris. Valentin Hugues de retour de Pretoria, RFI.
Et de l'Afrique du Sud au sud du Maroc, où la ville de Mamid El Rizlan accueille ce week-end le festival Zaman, festival aux portes du désert, où il est question de traditions locales, du désert et des frontières. Guillaume Thibault.
Au soleil tombant sur ces dunes majestueuses, la foule s'est retrouvée. Des enfants aux doyens, toute génération rassemblée, emportée par les chants et les rythmes traditionnels, une volonté du fondateur du festival Zaman, Ali Usbaï.
Le nom Zaman, il est un nom arabe, un nom tamashek, ça veut dire la période glorieuse. Comment on peut refaire vivre ces traditions et surtout les chants traditionnels.
Alignés, dressés fièrement sur des chameaux, symbole aussi de cette idée de dépasser les frontières tracées sur le Sahara, Mohamed est le représentant de ce groupe de chanteurs venu de Tizint, dans la province de Tata.
C'est un type de traditionnel qui s'appelle Chamara. C'est tout simplement pour protéger votre racine et votre tradition.
Au cœur de la danse et de la transe, venu écouter les jeunes musiciens de la zone, le musicien nigérien Omar Abambino Mokhtar, fier que ce son du désert, porte un message.
Rien que la musique qu'on fait, ça fait le bonheur pour les gens, ça amène la paix, ça amène la cohésion. Il y a plusieurs manières de développer une région sans violence.
Bambino sera sur la scène du festival Zaman ce dimanche. Guillaume Thibault, Mamid El Rizlan, RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est 7h42 en temps universel.